Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui.
Nous sommes contents d'accueillir trois invités. Sandra va nous lire le texte biblique pour aujourd'hui. Robert nous fera quelques commentaires sur ce texte afin que nous puissions le comprendre. Et puis Jean-Samuel en tirera quelques leçons pertinentes.
La dernière fois, nous avons appris que le livre de l'Exode raconte la suite de l'histoire du peuple d'Israël, qui a déjà commencé dans le livre de la Genèse. À la fin du livre de la Genèse, il nous est rapporté qu'une famine obligea le peuple d'Israël à quitter le pays de Canaan pour aller trouver refuge en Égypte. Ce peuple y fut bien accueilli au début. Puis le livre de l'Exode reprend ce récit quelques 400 ans plus tard et nous y apprenons deux choses importantes. Le peuple s'est beaucoup multiplié, mais il est maintenant soumis à l'oppression et à l'esclavage. Le récit se poursuit ainsi.
Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors, ils les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Pua. Le pharaon leur donna cet ordre. « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le pharaon les convoqua et leur demanda « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais le pharaon ordonna à tous ses sujets: « Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. »
Vous venez d'écouter la lecture d'Exode, chapitre 1, les versets 12 à 22. À présent, Robert va nous aider à mieux comprendre ce texte.
Merci Hélène, et bonjour à tous. Même s'il endurait des conditions de travail éprouvantes et une vie difficile, le peuple d'Israël ne cessait de se multiplier. Dans ce contexte de l'Ancien Testament, la multiplication de ce peuple représente un signe de la bénédiction de Dieu. Au début du livre de la Genèse, lors de la création du premier couple, Dieu lui a ordonné « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Puis, à Abraham et à ses descendants, Dieu fait la promesse « Vous deviendrez un peuple nombreux ». Peut-être qu'à cause de ses souffrances, le peuple d'Israël se demandait si Dieu l'avait vraiment abandonné. Mais le fait qu'il devenait de plus en plus nombreux devait le rassurer, car cela prouvait bien que Dieu était encore avec lui. Toutefois, le pharaon, le chef du peuple égyptien, s'est senti de plus en plus menacé par ce peuple nombreux. Il l'a déjà soumis à l'esclavage et lui a fait subir des conditions de travail très rudes, et pourtant ce peuple continue à se multiplier. Le pharaon prend alors des mesures encore plus effroyables. Il se comporte en véritable dictateur. Il demande aux sages-femmes de mettre à mort, lors des accouchements, tous les bébés mâles nés de mères israélites. Or, les sages-femmes craignent Dieu. Elles savent que la vie est sacrée, même la vie des bébés qui se forment dans le ventre de leur mère. De par leur métier, elles ont l'habitude de sauver la vie des plus vulnérables et de protéger la vie des plus faibles. Elles sont là pour faciliter la naissance de vie nouvelle et non pas pour les détruire. Ces sages-femmes courageusement refusent donc d'obéir aux ordres du pharaon. Le pharaon finit par se rendre compte que les sages-femmes ne lui obéissent pas et il les convoque pour les interroger à ce sujet. Les sages-femmes lui expliquent qu'elles arrivent toujours trop tard pour pouvoir intervenir. Nous ne savons pas si elles disent la vérité ou si elles cherchent à trouver des excuses justes pour se sortir d'affaire. Quoi qu'il en soit, le pharaon ne les harcèle plus. Et Dieu bénit ces deux femmes en faisant prospérer leur famille. Dieu a honoré leur obéissance et leur courage, car elles ont risqué leur propre vie afin de protéger celle des autres. Nous savons très peu de choses sur la foi du peuple d'Israël pendant son long séjour en Égypte. Nous ne savons pas à quel point il s'était imprégné de l'idolâtrie, des superstitions et des rites égyptiens. Nous ignorons s'il s'accrochait aux promesses données à Abraham, s'il mettait son espérance dans le Dieu de ses ancêtres. Toutefois, l'extrait biblique que nous avons lu apporte un grand espoir, car il rapporte que les deux sages-femmes révéraient Dieu. Ce Dieu qu'elle craignait n'était pas l'un des dieux égyptiens, mais plutôt celui qui s'était révélé à Abraham, autrement dit, le seul vrai Dieu. Ainsi, malgré 4 siècles de silence de la part de Dieu, et malgré ses longues années de souffrance, le peuple d'Israël n'a pas oublié le Dieu de ses pères. Certains, comme ces deux femmes, le craignaient et le révéraient toujours. Certains demeuraient fidèles à Dieu, malgré la culture idolâtre environnante. Certains espéraient encore en Dieu malgré l'attente d'un secours qui semblait s'éterniser. L'exemple de ces deux femmes ne peut que nous encourager à demeurer nous-mêmes fidèles, même si nos circonstances vécues aujourd'hui sont pénibles et difficiles.
Nous remercions Robert pour ses réflexions sur ces versets du livre de l'Exode. Cependant, nous pouvons nous demander en quoi ces versets sont pertinents pour nous aujourd'hui? Quel est leur intérêt pour l'homme ou la femme qui vit au XXIe siècle? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Jean-Samuel est là pour nous en parler. Jean-Samuel, bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. Dans un premier temps, je voudrais faire quelques remarques sur une question parfois controversée. Nous avons expliqué que le fait que le peuple d'Israël se soit multiplié est un signe de la bénédiction de Dieu et de ses desseins pour l'homme et la femme en tant que créateur. Alors, certains couples chrétiens se posent aujourd'hui la question suivante. Devons-nous donner naissance à autant d'enfants que possible? Et qu'en est-il de la prévention? Le recours à la contraception est-il valable? Ou empêche-t-il les desseins de Dieu de s'accomplir? Diverses églises apportent des réponses différentes à ces questions. Et nous devons les écouter avec respect. Je voudrais simplement vous soumettre quelques pensées qui résument brièvement mon point de vue. D'abord, j'affirme que la naissance de tout enfant est une bénédiction. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons à tout prix avoir autant d'enfants que possible. Cela ne signifie pas non plus qu'un couple qui ne parvient pas à avoir des enfants n'est pas béni. Ensuite, Dieu demanda aux hommes et aux femmes de se multiplier pour remplir la terre à un moment de l'histoire où il n'y avait qu'un seul couple. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la situation a suffisamment changé pour, avec sagesse, réfléchir sur cette première mission. Beaucoup de pays sont surpeuplés et manquent de ressources nécessaires pour offrir une vie normale aux enfants qui naissent. Dans ces circonstances précises, je pense qu'il est sage de mettre moins d'enfants au monde. Et pour réduire le nombre des naissances, je pense qu'il est juste d'avoir recours aux divers moyens de contraception mis à notre disposition. Il y a un grand besoin de davantage d'éducation sur ce sujet. Vous croyez peut-être que la contraception coûte cher, Mais n'oubliez pas qu'élever un enfant de plus coûtera bien plus cher encore. Enfin, la promesse de devenir un peuple nombreux fut donnée précisément au peuple d'Israël dans le cadre de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Dieu a tenu toutes les promesses faites à Abraham. La multiplication de ses nombreux descendants en est une preuve parmi d'autres. Cependant, le chrétien n'est pas assujetti à cette alliance faite à Abraham, car Dieu, par Christ, a conclu une nouvelle alliance avec son Église. Dans le cadre de cette nouvelle alliance, il n'y a pas de commandement à se multiplier en donnant naissance au plus grand nombre d'enfants possible. La mission que Jésus a confiée à son Église est plus spirituelle que physique. Il s'agit d'aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection et pour faire des disciples. À présent, revenons sur l'exemple des deux sages-femmes. Elles ont eu le courage de protéger la vie de ceux qu'un régime politique tyrannique voulait détruire. Encore de nos jours, des hommes puissants réagissent face à des menaces réelles ou imaginées, avec une volonté de faire le mal, allant même jusqu'à mettre en œuvre des projets meurtriers ou génocidaires. Le chrétien ne doit pas être complice d'une telle violence ou de meurtre. Il doit trouver le courage de dire non, même s'il court le risque de représailles. Dieu a honoré le courage et l'obéissance de ces femmes. Elles étaient présentes sur le terrain et elles ont protégé la vie des personnes à risque. Elles ont sauvé la vie des nouveau-nés faibles et vulnérables. De nos jours encore, de nombreux enfants sont exposés à des dangers importants, pas forcément à cause d'un tyran tel que le pharaon, mais à cause d'autres raisons engendrées par des circonstances particulières. Nous pouvons penser aux nombreux enfants orphelins, aux enfants ayant perdu leurs parents soit à cause de maladies telles que le sida, soit à cause des violences politiques ou tribales. Trop d'orphelins n'ont personne pour s'occuper d'eux. Ils sont exposés aux personnes sans scrupules, qui peuvent les contraindre aux travaux forcés, les soumettre à la maltraitance physique ou sexuelle, ou bien les forcer à se prostituer. Oui, les enfants sont vulnérables. Il est facile pour les hommes méchants de profiter de leur faiblesse. Encore de nos jours, les enfants ont besoin de femmes et d'hommes qui les protégeront du mal, qui défendront leurs droits, qui leur donneront un cadre de vie sécurisant. Les chrétiens peuvent s'inspirer de l'exemple d'amour et de courage donné par les deux sages-femmes qui ont joué un rôle si important dans la protection des nouveau-nés du peuple d'Israël.
Merci Jean-Samuel. Vos paroles nous interpellent et nous mettent devant un véritable défi. Dans un monde où se trouve tant de haine, nous pouvons aimer notre prochain et protéger les personnes vulnérables.
Nos trois invités seront de retour la prochaine fois pour continuer notre étude sur le livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.